Bienvenue à Compte Complet, notre balado sur le monde du baseball à la maison en compagnie de Marc Griffin. On se retrouve la première fois depuis la fin de la Série mondiale qui a été remportée, je le rappelle, par les Dodgers de Los Angeles. Il s'en est passé pas mal de trucs depuis la fin de cette Série mondiale. Marc, on va commencer par l'actualité chaude, c'est-à-dire là, on est en plein milieu du marché des joueurs autonomes. Dans un marché où on ne sait pas trop comment les meilleurs joueurs vont réussir à obtenir beaucoup d'argent. Moi, ce qui me frappe beaucoup, première des choses, Marc, c'est que je regardais la qualité des joueurs autonomes. Il y en a des très bons, là. Et la plupart placent JT Realmuto en tête de liste. Bon, il y a Trevor Bauer avec lequel on pourrait avoir un argument, peut-être George Springer. Mais ce qui me frappe, Marc, c'est que la plupart ont 30 ans et plus. Est-ce qu'on va réussir à obtenir des gros contrats? Moi, j'en doute énormément. Et quel est le montant qui sera associé à ces joueurs-là? Le timing pas très bon pour cette cuvée de joueurs autonomes.
Non. Et lorsque tu parles de gros contrats, tu parles en termes de durée ou en termes
Les deux, les deux.
de... Ben, en fait, écoute,
Mais
Alain, c'est
surtout en
ça.
durée, je te dirais.
C'est évident que c'est pas évident. En fait, c'est évident que c'est pas évident, ça se dit bien, hein? Mais effectivement, tu regardes la situation économique. On ne sait même pas s'il va y avoir des spectateurs en 2021. Il y a eu des pertes, évidemment, en 2020. C'est clair que ça ne sera pas facile. Par contre, ça a déjà un petit peu bougé. J'ai l'impression quand même que ces joueurs-là, dont tu as fait mention pour ajouter DJ LeMahieu dans tout ça, vont obtenir, évidemment, quand même un certain montant d'argent. Est-ce qu'on va briser la banque? Est-ce qu'on va battre des records? Assurément pas, selon moi. Mais les bons joueurs vont obtenir des bons contrats. Moi, ce qui me fait peur, Alain, c'est la tranche de joueurs juste sous celle dont tu as fait mention. Là, les joueurs qui ont 30 ans, mais que ce ne sont pas des joueurs nécessairement étoiles ou des joueurs qui vont faire la différence, ça peut être je sais pas, un septième, huitième frappeur d'une formation, un quatrième voltigeur, ou des choses comme ça. C'est là, j'ai l'impression que c'est cette catégorie de joueurs-là qui risquent, eux, vraiment d'écoper dans les joueurs autonomes de cette année. Et évidemment, ben, l'année prochaine, on verra ce qui suivra pour 2022. Mais certes, pour cette année, compte tenu encore une fois des risques, ça va brasser pas mal parce que c'est clair que chacune des équipes, c'est pas la même réalité là, qu'on découvre.
Oui, j'imagine, Marc, pour renchérir sur ce que tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle Robbie Ray a sauté sur l'offre des Blue Jays de Toronto, j'ai l'impression, là.
Ben, on a Robbie Ray, on a
Oui.
les Braves qui ont bougé également. On a, tu sais, il y a des choses qui bougent un peu. C'est clair qu'on veut aller prendre la meilleure, moi je dirais ça, la meilleure offre ou c'est le joueur qui serait plus susceptible de nous aider sans payer trop le gros prix actuellement. Mais ça va être un marché intéressant. Puis qui va oser? Est-ce que les nouveaux propriétaires des Mets, là, on vient de libérer 24 millions de dollars parce que M. Robinson Cano a décidé, lui, qu'il prenait s'est fait prendre pour une deuxième fois, donc suspendu pour l'année 2021, alors sans salaire, ce qui veut dire que les Mets viennent d'économiser 24 millions, Alain. Et ça, est-ce que ça ouvre la porte à un DJ LeMahieu où là, soudainement, on a le budget pour peut-être le signer pour aller chercher un joueur de deuxième but? Je dis ça comme ça. Donc, il peut y avoir plein de rebondissements, c'est clair, dans les prochaines semaines à ce niveau-là.
Oui, je ne sais pas quelle est ton évaluation, Marc, des joueurs autonomes qui sont disponibles. J'aime beaucoup JT Realmuto, mais si on parle de potentiel offensif, j'ai l'impression que George Springer est devant et compte tenu de l'âge de Realmuto, qui peut être encore un bon frappeur pour quelques saisons, mais admettons que tu lui donnes 5 ans. Est-ce qu'il va être encore un receveur dans 5 ans? C'est quelqu'un qui a un physique quand même imposant. Je suis pas convaincu, moi, qu'il sera capable d'assumer autant de manches que voulu derrière le marbre. Donc, peut-être voué à jouer au premier but. Puis, Marc, tu le sais, les frappeurs de puissance qui n'ont pas de position, à moins d'avoir un rendement au-dessus de la moyenne comme un Freddie Freeman au cours de la dernière saison. Marc, ces joueurs-là, tu peux en trouver à bas prix. Donc, moi, ce que je me demande, en fait, si tu veux vraiment avoir le meilleur joueur en fonction de son rendement et de sa position en défense, je me demande si tu es pas mieux avec un George Springer.
Ouais, écoute, la seule chose, c'est que ces deux joueurs, bon, si on parle de l'aspect offensif, oui, on peut les comparer. L'aspect défensif, c'est difficile à comparer parce que c'est deux positions complètement différentes. Oui, c'est la ligne du
Ouais.
centre, mais ça reste que le receveur, j'ose en croire encore penser, Alain, que le receveur, son rôle premier, c'est d'être derrière le marbre. Évidemment, ce qu'il donne en attaque, tant mieux, mais tu sais, je pense à Molina, je pense à tous les meilleurs receveurs. On veut qu'il soit en arrière. Imaginez si Molina se retrouve avec les Yankees de New York, par exemple. Bon, les Yankees, on semble, en tout cas, les premiers temps là, qu'on voit depuis la fin de la saison, c'est que Sanchez ne fait pas partie nécessairement des plans des
Ouais.
Yankees. Alors, est-ce que Molina arrivait? Bon, Molina va apporter une dimension d'attaque intéressante, pas la puissance, évidemment, de Sanchez. Mais est-ce qu'il va complètement stabiliser un personnel de lanceurs en défense? Absolument. Alors, est-ce qu'une équipe veut, par exemple, aller chercher un Real Muto pour, t'sais, vraiment stabiliser donc un personnel de lanceurs, que ce soit de partant ou de releveur? Alors, pour ça,
Ouais.
c'est difficile de dire, t'sais, je regarde par exemple les Red Sox de Boston. Est-ce qu'on peut aller chercher un Springer pour se donner, bon, je dis ça de même, mais t'sais, on n'ira pas chercher un Real Muto du côté des Red Sox, assurément, mais on pourrait aller du côté d'un George Springer. Et voir qu'est-ce que ça peut donner. J'en doute, là. J'en doute de la façon dont les
Ouais.
Red Sox gèrent leur équipe actuellement, mais c'est des comparaisons qui font en sorte que c'est pas nécessairement la même approche là, pour les deux joueurs.
Est-ce qu'il y aura des contrats de plus de 5 ans? Dans le fond, c'est la
Ouais.
question initiale qui aurait pu être posée là, relativement à tous ces joueurs autonomes. Il y a Marcus Semien, dont j'aurais pu parler, Didi Gregorius, deux joueurs d'Aréco. Il y en a 5 autres qui sont disponibles l'année prochaine. Est-ce que les équipes intéressées à avoir un joueur d'Aréco se disent on va attendre l'année prochaine avant de lancer nos billes vers un joueur qui occupe quand même une position importante? Puis là-dedans, il va y en avoir quand même qui sont assez jeunes. Hein? Lindor, entre autres, Seager, c'est pas très vieux, plus jeune qu'un Semien ou un Gregorius. Ces gars-là sont peut-être pas en position de force présentement. Ça peut changer la donne. Il y a beaucoup de facteurs, Marc, qui rentrent en ligne de compte. Moi, c'est la durée des contrats. Tu parlais tantôt, montant d'argent ou durée. Moi, c'est sur la durée, j'ai l'impression que ça va être limité. Au-delà de 5 ans, j'en doute énormément en raison de l'âge que j'ai mentionné tantôt. Il n'y en a presque pas qui sont en bas de 30 ans.
Ouais, je pense. Et la tendance a commencé depuis 2 ans, je vous dirais, là, que ces fameux contrats de 5 ans et plus, on les voit de moins en moins. Par contre, Alain, compte tenu qu'on ne connaît pas encore quel genre de revenus on pourrait avoir en 2021, est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, un Lindor, tu as mentionné son âge un peu plus jeune, bon, ou un Seager, on peut les mettre sous contrat pour 5 ans. La première année, le 2021, peut-être que c'est un salaire moindre. Tu sais, on peut jouer avec les chiffres. Compte tenu des risques, est-ce qu'on peut se dire, bon, ben, compte tenu de 21, on va donner un petit peu moins, en bas du marché peut-être même, mais je vais te garantir que 22, 23, 24 et 25, là, je vais te donner évidemment un montant X, Y, Z. Donc, ça, c'est pas impossible. Vous savez, les agents ou les directeurs gérants, on a quand même toujours été assez créatifs dans différentes époques du baseball, à différents moments du baseball. Alors, on pourrait voir une nouvelle forme de contrat octroyé pour certains joueurs si on veut vraiment les garder à long terme. Mais sinon, le problème que je vois, c'est que si tu signes un contrat, tu es un Lindor ou un Seager, tu signes un contrat d'un an, tu sais que tu vas être sous l'évaluation parce que, bon, 2021 est toute l'incertitude. Mais là, si tu as un rendement en deçà de ce que tu as fait cette année, je pense à un gars comme Seager, entre autres. Ben là, il peut être perdant, évidemment, pour la suite des choses. Alors, c'est pas une saison habituelle, on le sait. C'est pas une année, oups, pardon. C'est pas une année habituelle, mais ça reste que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, évidemment, de très près. On risque d'avoir de belles surprises dans tout ça.
Bon, parlant de ça, Marc, tu as parlé de Gary Sanchez tantôt et ça m'amène à parler de la structure salariale qui s'en vient dans l'entre-saison. On a déjà vu des décisions qu'on ne voyait pas les années d'avant et là, je parle de ceux qui sont joueurs autonomes qui ont accepté des offres qualificatives. Les deux qui me viennent en tête, Kevin Gausman et Marcus Stroman. Bon, Stroman n'a pas joué l'année passée, mais ces deux joueurs qui auraient pu se prévaloir de l'autonomie, ils ont décidé de prendre l'offre qualificative. C'est quoi, juste pour faire un dessin, quand tu deviens joueur autonome, si tu vas avoir une compensation pour la perte du joueur autonome, il faut que tu soumettes une offre qualificative. Il y a des équipes qui sont fait jouer des tours, c'est pas arrivé souvent. Je pense que tu te rappelles de Francisco Rodriguez avec les Brewers de Milwaukee. Les Brewers, pas une équipe riche, et Francisco dit, ben, je vais la prendre. Oups, les Brewers se sont dit, oh, attends un peu, là, il y a 15 millions là, qu'on est obligé de dépenser qui n'étaient pas dans le budget. Et rappelle-toi des Expos quand ils avaient fait leur vente de feu. Larry Walker était le seul qui était parti comme joueur autonome. Les Expos n'avaient même pas soumis d'offres qualificatives parce qu'il y avait une incertitude. Et Marc, faut quand même le mentionner, là, Larry Walker aimait Montréal et les Expos craignaient que Walker dise oui.
Donc, ah, écoute,
bon, tu te rappelles de cette époque-là. Donc, on n'avait pas soumis d'offre, il n'y avait pas eu de choix en retour. Donc, il y a deux joueurs qui ont accepté cette offre-là. Et l'exemple de Gary Sanchez qu'on donnait tantôt, je sais qu'on en a parlé, Marc, mais je veux qu'on élabore un peu. J'ai l'impression que ses jours avec les Yankees sont comptés. Et non seulement ça, il est admissible à l'arbitrage. Je pense qu'on ne se rendra même pas là chez les Yankees avec Sanchez.
Ben, et Alain, je veux juste revenir, en fait, pour expliquer l'offre qualificative. C'est que le montant est prédéterminé d'avance. Hein? C'est un salaire, c'est un montant qui est prédéterminé.
Tu as parlé de 15 000. De plus de 20%.
Non, exact. Alors là, c'était 18, je n'ai pas par cœur, là, mais autour de 18 millions de dollars. Alors, c'est pour ça qu'un Kevin Gossman a sauté sur l'occasion, évidemment.
Ben oui.
Mais oui, dans le cas de Sanchez, c'est pour ça que j'en ai parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais effectivement, moi, il ne semble plus dans les plans de l'équipe. On a vu en série, Alain, je pense que le message a été assez clair. Il n'a pas été le receveur dans les matchs les plus importants de l'équipe en série. C'est pas lui qui était derrière le marbre. Tu ne peux pas avoir un signal plus puissant que ça, Alain. Tu joues des matchs importants, tu n'es pas là derrière le marbre. Moi, je pense que les jours de Sanchez sont terminés avec les Yankees de New York. Il s'agit de savoir maintenant de quelle façon on va couper les ponts dans le cas de Sanchez. Mais pour moi, c'est une évidence qu'il ne sera pas de retour avec l'équipe.
Oui. Écoute, je ne pense pas qu'on puisse l'échanger. L'équipe serait obligée de lui soumettre une offre au minimum aller en arbitrage. Et sachant le montant qui l'accompagne, on ne peut pas réduire de plus de 20%. Bon, 18 millions, faites un calcul, écoute, on se retrouve quand même à 14-15 millions de dollars, sachant qu'il va probablement devenir joueur autonome et qu'on l'aura disponible pour moins que ça. Moi, je ne vois pas d'autre issue que l'autonomie complète au mois de décembre pour Gary Sanchez.
Mais je pense que c'est l'option visée du côté des Yankees aussi. On va attendre, évidemment, là, mais tu as tout à fait raison parce qu'il y a trop de risques associés au salaire élevé qu'il puisse faire et il n'y aura pas de preneur à ce niveau-là. Donc, il devrait... En tout cas, écoute, je veux dire, on ne sait jamais, il y a un paquet de surprises, mais tous les éléments nous amènent à faire en sorte que Sanchez ne sera plus avec les Yankees.
Bon, dernier aspect sur des joueurs autonomes, je veux qu'on parle des Blue Jays de Toronto. Il y a plusieurs rumeurs qui courent. Peut-être un joueur d'avant-champ, on parle même d'un voltigeur, on chercherait un voltigeur descendant. Le nom de Springer est mentionné. On parle même de TJ LeMahieu avec les Yankees de New York.
Ouais.
A-t-on vraiment besoin de renfort? Parce que je regarde position par position, on a des joueurs qui peuvent jouer à chacune des positions recherchés, à moins qu'on ait fait notre nid avec Vladimir Guerrero et qu'on se soit dit déjà, c'est terminé au troisième but.
Ben moi, je pense que c'est le cas, Alain. Je pense pas qu'on va avoir Vlad au trois. À moins, et bon, vous avez vu, Vlad a fait beaucoup d'efforts depuis la fin de la saison, a perdu beaucoup de poids. Par contre, c'est pas la première fois qu'il se lance dans un programme de perte de poids et que finalement, bon, petit à petit, ça reste pas ainsi. Donc, on espère, on le souhaite vraiment. Dans le cas de Vlad, ça va l'aider beaucoup, évidemment, s'il perd un peu de poids et qu'il puisse reprendre une certaine agilité, habileté au troisième. Mais moi, je pense que les Blue Jays ne comptent pas nécessairement là-dessus. On veut pallier à tout ça. On veut s'assurer que... Moi, je crois pas à DJ LeMahieu avec les Blue Jays de Toronto. En fait, je vois pas pourquoi. Je sais que Bijou est capable de jouer au champ extérieur. Mais je ne suis pas sûr. Mais écoute, évidemment, s'il y a un intérêt, si tout est là, c'est évidemment, les Blue Jays seraient une meilleure équipe avec LeMahieu dans leur formation. Mais je ne suis pas certain que c'est là qu'on devrait s'en aller. C'est encore au monticule, selon moi, qu'on pourrait aller trouver un peu d'aide pour... Il ne faut pas l'oublier, là, les Jays jouent dans la section des Yankees, des Rays. Ouais. Les Red Sox, c'était leur pire saison en 2020. Ils vont certes rebondir. Alors, ce n'est pas une section facile, cette division S-là. Mais juste d'entendre et de savoir que les propriétaires, la direction des Blue Jays veulent être actifs, veulent bouger, veulent faire des choses, moi, je trouve ça encourageant. Et puis, sais, que ça se termine avec pas grand-chose, il y a quand même une volonté de faire des choses. Ouais. Si tu es un joueur d'organisation, ben c'est ce que tu veux voir. Tu veux voir une organisation qui veut trouver les moyens de s'améliorer. Quand on a atteint les séries, même si on a passé par la porte d'en arrière avec la nouvelle formule des séries, on a quand même été des séries. Alors, il y a de quoi bâtir là-dessus du côté des Jays de Toronto. On a connu de bons bras, de bons jeunes bras dans cette équipe-là en 2020. Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. Mais si on est capable d'ajouter un joueur d'impact, un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui a gagné ailleurs, soudainement, les Bichette, les Bijo, les Guerrero, tout ce monde-là deviennent ouais. juste un peu meilleurs. Alors, c'est pour ça qu'il y a de l'intérêt du côté de la direction de bouger, d'aller chercher quelqu'un qui a gagné. Ça n'a pas de prix, ça, lorsque tu es un leader dans l'équipe qui a gagné, qui peut traîner les jeunes avec lui.
On va parler maintenant de quelques changements dans les hautes directions et je pense que la nouvelle qui a fait le plus jaser, qui a fait couler le plus d'encre, c'était l'embauche de la première femme comme directeur général d'une équipe, Kim Inge avec les Marlins. Derek Jeter la connaissait. Inge est passé par les Yankees de New York, ça c'était à la fin des années 90. Il a eu quelques entrevues. Elle est passée par les Dodgers de Los Angeles, les White Sox, et depuis 2011, se retrouvait au bureau du commissaire du baseball en territoire connu. Elle travaillait avec Joe Torre. Joe Torre est avec les Yankees à la fin des années 90. Les deux se connaissaient bien. Finalement, Inge se retrouve avec les Marlins de la Floride. Moi, on m'a posé la question, Marc, à savoir, bon, ce que je pensais de cette embauche-là. Je ne sais pas si je suis rendu plus loin que d'autres. Je suis très content que ce soit elle. Et je suis content que ce soit basé sur des compétences. Donc, moi, connaissant son nom, et Marc, je suis convaincu que tu avais vu son nom circuler auparavant également, que ce soit avec les Dangereuses ou ailleurs, et qu'elle soit bossée sur ses compétences, mais moi, j'en suis ravi, et qu'elle soit une femme ou non, ou encore, si on parle aux États-Unis, ici, bon, on parle de racisme à certains endroits, si la personne a des compétences, peu importe son sexe, sa race, qu'elle soit embauchée, moi, c'est ça qui me ravit, qu'on passe outre toutes les pseudo-barrières qu'on se soit inventées au fil du temps et qu'on soit rendu à un moment où, finalement, c'est la compétence qui est le premier critère. Moi, c'est ça qui me ravit de plus. Ma réaction, ben, si c'est la meilleure personne, tant mieux, et Derek Jeter la connaît. Donc, c'est parce que c'est un plus-value pour l'équipe qui l'embauche, point final.
Ben, écoute, absolument, Alain, je te disais que non seulement ça fait du bien de voir ça, mais il était temps parce qu'elle a été approchée à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais en avait toujours terminé deuxième. Pourtant, tu regardes, tu parles de la feuille de route, c'est assez impressionnant. Là. Tu regardes la feuille de route à tous les niveaux, les gens qu'elle a côtoyés au fil des années avec les Yankees, les Dodgers, tu l'as mentionné, le baseball majeur. Les programmes qu'elle a créés, les relations qu'elle a créées aussi avec non seulement les joueurs, mais les hautes directions de certaines équipes. Alors, c'est clair. Moi, je trouve ça très, très bon pour le baseball, très bon pour elle, très bon pour les femmes dans le baseball, dans le sport. C'est une bonne nouvelle à tout point de vue. Et tu l'as dit, c'est pas parce qu'on veut embaucher quelqu'un là, pour faire différent. Non, c'est vraiment ses compétences d'administratrice baseball qui a fait toute la différence. Est-ce qu'elle va avoir de la pression? Ben oui, absolument. Qu'est-ce que tu veux? C'est la première femme. On va attendre son premier geste important ou une première transaction, une première décision. Et puis là, ben, elle va être rendue à un niveau où elle va se faire critiquer ou non, peu importe les décisions. Mais c'est parfait. Puis je pense que c'est ce qu'elle veut. Elle est certainement prête à relever ce défi-là. Bravo à Derek Jeter, à l'organisation des Marlins. Et si ça peut créer d'autres éléments ensuite, d'embaucher, comme tu l'as dit, les personnes pour leurs compétences, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent. Alors, je trouve ça... Écoute, dans un monde, Alain, où la technologie prend toute la place dans le baseball, je trouve ça très humain, cette décision-là. Je trouve ça le fun que le baseball, que ce soit le baseball où on a vu cette décision être prise. Et j'espère que c'est le début de plein de décisions de la sorte qui vont faire en sorte que le baseball va évoluer un petit peu plus et qu'on va poursuivre dans la bonne direction.
Bon, deux autres équipes dont on va parler, Marc. Théo Epstein quitte les Cubs de Chicago. Ça, c'était dans l'air, ça, depuis un an ou deux chez les Cubs. C'est Jed Hoyer qui était avec lui depuis ces années avec les Red Sox de Boston qui va prendre sa relève. Je pense une transition qui va se faire bon, en douceur. Que fera Théo Epstein? C'est même pas certain qu'il va demeurer dans le monde du baseball, mais je peux te confirmer, ouais, je peux assurer, hein, pas confirmer, mais je suis certain qu'il y a une coupe de téléphone de la part d'autres organisations, parce qu'il a une feuille de route absolument sensationnelle. Série mondiale, ce gars-là s'en va à Cooperstown éventuellement. Je pense pas que ça change grand-chose, c'est les Cubs de Chicago. Sauf ce qui m'intrigue un petit peu, Marc, c'est que, bon, il a peut-être délaissé un peu ses fonctions au cours des deux dernières années. C'est Hoyer, là, qui était celui qui prenait les décisions. Le réseau de filiales des Cubs, ça fait une couple d'années qu'on n'a pas eu grand-chose, Marc, et ça commence à paraître, là.
Ben, écoute, il a mentionné lors de son embauche même, là, il y a quelques années déjà, mais il avait
Oui.
mentionné, vous savez, habituellement 10 ans, lorsqu'on est à la barre d'une équipe une dizaine d'années, souvent, ce n'est pas une mauvaise idée de quitter, de
Oui.
séparer tout ça pour avoir des nouvelles idées. Donc, il maintient un peu ce qu'il avait mentionné à l'époque. Et comme tu le dis, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, en fait, dans la transition. Par contre, est-ce que ça veut dire que du côté des Cubs, on va délaisser quelques joueurs? Est-ce qu'on va délaisser un peu de contrat? Est-ce qu'on va épurer un petit peu dans ça? C'est pas impossible que. Parce que je pense pas que c'est dans cette direction-là que lui voulait s'en aller. Alors. C'est pour ça qu'à un moment donné, d'après moi, on va couper les ponts. Alors, j'ai comme peur, moi, que les Cubs décident que, bon, cette ère-là, on l'a essayé, on a gagné une série mondiale, bravo. Là, il est temps que le fameux quatuor à l'avant-champ de Rizzo, Baez et compagnie, Bryant, bon, qu'on sépare tout ça, qu'on en échange, qu'on en libère, je ne sais pas, là. Alors, je m'attends peut-être à certaines décisions de ce côté-là des Cubs de Chicago. Mais là, ironiquement, Alain, oups, il y a un poste qui devient vacant avec les Padres de San Diego, les Padres qui sont dans une bonne séquence, qui s'en vont dans la bonne direction. Pas surpris, moi, que Théo Epstein se retrouve rapidement un emploi, même s'il a mentionné qu'il pensait pas être autour des terrains en 2021. Si l'offre est intéressante, nouvelle organisation, nouveaux défis, belles choses qui s'en viennent à San Diego. J'ai comme l'impression qu'il pourrait avoir un appel de passer, de ce côté-là.
Oui, c'est pas impossible. Là aussi, il y a un petit peu d'ouvrage à faire. On le mentionnait, Marc, c'est une belle équipe, les Padres, mais ce qui était pas inquiétant, mais ce qui nous faisait sourciller un peu, c'est le fait que sur le terrain des Padres, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient issus de leur propre organisation. On a fait
Non.
de très bonnes transactions, là, des transactions judicieuses. Sauf que faut que le réseau de filiales fournisse. Et bon, Tatis, c'est pas un gars de leur réseau. Il a été élevé avec les Padres, mais on l'a obtenu dans un échange avec les White Sox de Chicago. Donc, il y a peut-être de l'ouvrage à faire là, chez les Padres de ce côté-là.
Ah, ben assurément, Alain. Il n'y avait aucun des 9 joueurs partants là,
Oui.
qui faisait partie, évidemment, de l'organisation. En fait, qui était issu de
Oui.
l'organisation. Alors, c'est clair qu'il y a un. Écoute, c'est drôle, hein, parce que là, je remonte à mes années de joueur. Les Padres n'avaient pas la réputation de développer tant que ça. En fait, on
Non,
tentait des choses, mais on ne développait pas tant. Et 25 ans, 30 ans plus tard, on est encore dans le même constat. Il est peut-être temps que ça change parce que on a une belle équipe, on a une jeune équipe, mais Alain, si on veut que la roue continue à tourner, il va falloir développer pour amener des jeunes qui vont venir faire la transition éventuellement lorsque les Machado ou les Hosmer vont quitter éventuellement. Donc, c'est non négligeable le développement au niveau des filiales. Parlez-en aux Rays. Les Rays, on va encore les
Non.
placer parmi les équipes de tête l'année prochaine parce qu'il y a des joueurs qui poussent. Il y a les Wander Franco qui sont en train de démolir les ligues d'hiver présentement. Ben, ils vont faire partie de la formation. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de développer.
Bon, et l'autre équipe dont je voulais qu'on parle, Marc, les Mets de New York, et dans ta tête, quand j'ai vu le ménage qu'on a fait avec les nouveaux propriétaires, je t'ai entendu crier de la rive sud de Montréal, disant il était à peu près temps. Je pense qu'il y a un changement de philosophie important qui devait s'opérer chez les Mets de New York. Ça fait des années. Il faut même parler, quand on a atteint la Série mondiale, un bon personnel de lanceurs, mais des drôles de décisions. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vient distraire une machine qui semblait pourtant destinée à finir parmi les bonnes équipes de la Ligue nationale. Puis, bref, il y a tout le temps quelque chose qui vient faire en sorte là, qu'il y a un pneu qui éclate là, pendant qu'on roule. Je pense qu'on a voulu mettre un terme à ça puis repartir, non pas à neuf, là, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants chez les Mets de New York, mais je pense qu'un virage important là, était nécessaire dans cette organisation-là. Puis là, tout le deuxième étage, on a jeté ça dehors et pour repartir là, sur, en fait, une nouvelle philosophie à tout le moins.
Moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Là. Tous les commentaires qui ont été faits, la venue du nouveau propriétaire, tu vois que j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues de la bouche de la haute direction des Mets. On s'en va vraiment, en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis je vous dirais même que la nouvelle de Robertson Cano, qui au début, je me dis, bon, encore une nouvelle des Mets de New York, un joueur qui teste positif une deuxième fois à Robertson Cano, mais force d'y penser, Alain, c'est une bonne nouvelle. Les 24 millions de dollars que tu libères, un gars qui a... Mais tu sais que Robertson Cano, on l'a encore pour 2022 puis 2023 à coût de 24 millions par année. Alors, on va être pris avec en 2022, mais au moins en 2021, on vient de libérer un peu d'argent. Donc, finalement, c'est une autre bonne nouvelle pour les Mets de New York, tout ça. Et j'ai hâte de voir. Moi, en tout cas, si j'étais joueur de l'organisation, ce que j'ai entendu au cours des dernières semaines m'encouragerait énormément. Puis, j'ai pas surprenant que Marcus Stroman, on en a parlé rapidement tout à l'heure, que lui a accepté l'offre qualificative pour se retrouver à nouveau avec les Mets. Il y a des belles choses. Moi, je pense que on vient de s'enlever beaucoup de pression. Puis c'est rien contre la direction qui était là juste avant, parce que ça a toujours été comme ça avec les Mets depuis 25-30 ans. J'ai l'impression, en tout cas, les premières bases qu'on a vues de cette nouvelle direction-là semblent vraiment bonnes, semblent intéressantes. On va laisser le temps à l'organisation de placer ses pions à gauche, à droite. Mais, en tout cas, moi, si j'étais un Jacob deGrom ou un Noah Syndergaard, je trouve que c'est très encourageant ce qui se passe et ça me donnerait, j'aurais comme une motivation additionnelle à me présenter au camp d'entraînement en bonne santé pour partir la prochaine saison.
Tu sais, chez les Red Sox de Boston, on a parlé pendant longtemps de la gang hein, de Babe Ruth. Je pense que chez les Mets, faudrait pas attendre la gang de Bobby Bonilla. Faudrait pas attendre que son contrat prenne fin de, pour finalement se mettre à gagner parce qu'on en a pour encore une petite dizaine d'années. Bonilla qui doit recevoir à chaque 1er juillet encore son million là, jusqu'à quoi, c'est 2032, je pense. Là. Mais bref, je pense que c'est le genre de contrat que la nouvelle direction va peut-être essayer de régler. En tout cas, Marc, on va aller sur le terrain. D'autres changements. Écoute, le retour de Tony La Russa, il faut bien le mentionner, là, ça a fait sourciller pas mal de monde. En plus, si on tient compte que les White Sox semblaient au courant qu'ils avaient été arrêtés pour conduite en état d'ébriété, c'est doublement surprenant cette embrouille, compte tenu des tendances actuelles des gérants qui prennent moins de décisions qu'ils en prenaient.
Moi, Alain, je la comprends pas. Je vais le dire, là, je la comprends pas. Puis Tony La Russa a connu une carrière extraordinaire. Il a fait de bonnes choses. C'est un gars membre du Temple de la Renommée. Vraiment, il a eu une carrière exceptionnelle en tant que gérant. Mais c'est terminé. On a passé à autre chose. On est ailleurs. Et écoute, Alain, je ne vois pas comment La Russa va s'implanter dans ce baseball moderne-là, avec beaucoup de décisions prises avant les matchs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tout ce qui est derrière tout ça. Puis, je ne sais pas si tu as entendu les commentaires qu'il a fait lorsque le policier l'a arrêté, mais il a dit écoutez, vous ne me connaissez pas, puis il a essayé de vendre sa salade. Moi, en tout cas, je sais, là, puis la planète baseball, là, on a critiqué énormément les White Sox de cette décision-là. Je trouve ça de valeur parce qu'on est vraiment en bonne direction du côté des White Sox. Là, on est tout près de vraiment là, créer quelque chose de le fun dans cette division centrale de l'Américaine. Je la comprends pas. Honnêtement, je la comprends pas. Je la crois pas. Je crois pas, moi, que ça va réussir. Puis pas parce que La Russa est pas bon, mais c'est juste que c'est pas un bon fit. C'est pas ça qu'on a besoin, selon moi, du côté des White Sox de Chicago. Je leur souhaite que ça fonctionne, mais personnellement, j'aime pas ça. La Russa a toujours eu des petits problèmes de communication, puis on sait que dans le baseball aujourd'hui, ben, les joueurs aiment ça parler, on aime ça savoir qu'est-ce qui se passe, on aime ça connaître nos rôles. La Russa, c'est pas de même qu'il gérait à l'époque. Là. C'est qu'il mettait son bon vieux line-up, ça mettait ça sur, dans l'abri, puis si tu joues pas, ben comprends le message. Que c'est l'ancienne façon de faire, Alain. Je pense pas que ça va coller très bien avec, avec la génération des jeunes joueurs des White Sox de Chicago.
Ben, j'imagine que tu as lu ce que Tim Anderson a mentionné. Tu sais, la Russa qui est un petit peu beaucoup conservateur et pas très en faveur de l'expression démonstrative, si je peux dire, un pléonasme, mais c'est quand même, je pense, approprié de parler de la façon dont les jeunes réagissent aujourd'hui. Tim Anderson fait partie de cette nouvelle génération-là. Et Anderson qui a dit, moi, je changerai pas. Je suis quelqu'un d'émotif, puis quand je fais un bon coup, ben, je veux que ça paraisse. Parce que de ce côté-là, il y a beaucoup de latinos quand même avec les White Sox de Chicago.
J'en vois pas, Alain, de... Honnêtement, là, outre le fait que la feuille de route de La Russa, il a déjà gagné, comme je l'ai dit, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est parfait, mais on est ailleurs aujourd'hui, Alain. Écoute, il y a quel âge, là, La Russa? 77 ans ou 76?
Il est plus proche de 80 que de 70. Là.
Bon, alors, écoute, c'est correct, c'est leur décision, mais moi, je la comprends pas, je la trouve pas très bonne. Puis je vois pas comment on va rallier le genre de joueurs qu'on a autour de cette équipe-là. Anderson en est un, mais je regarde ce que Moncada peut faire, je regarde Luis Robert qui arrive, c'est des joueurs énergiques qui ont besoin de s'exprimer d'une façon. Écoute, je veux dire, tant mieux si ça fonctionne, mais au mois de novembre 2020, là, j'aime pas cette décision-là.
Bon, Marc, deux autres embauches. Joey Cora qui revient, en fait, son défi sera autre que lorsqu'il est arrivé avec les Red Sox de Boston, Marc. Moi, ce que j'aime pas dans tout ça, c'est qu'on a sacrifié un bon instructeur que tu as bien connu, Ron Reneke, malheureusement, qui a été sacrifié pendant un an. Je pense que c'était dans les plans des Red Sox de ramener Joey Cora, pas Joey, mais Alex, son frère. Je ne sais pas ce qu'on va faire parce que les lanceurs, est-ce qu'ils vont être meilleurs l'année prochaine? On va peut-être compter sur le retour d'Eduardo Rodriguez. Chris Sale ne lancera pas pendant un bon moment. S'il lance, le personnel de lanceurs, ça va être encore un défi chez les Red Sox de Boston, à moins qu'on embauche Trevor Bauer. Mais comme tu le mentionnais, la nouvelle direction des Red Sox de Boston s'en ira pas avec de l'argent lancé par les fenêtres envers les joueurs autonomes. Donc, on va être patient du côté des Red Sox.
Mais je pense que le défi est plus loin que ça, Alain. C'est-à-dire que la question est de savoir pourquoi ramener Alex Cora. Il y a AJ Hinch qui s'est trouvé un emploi, Cora qui s'est trouvé un emploi. Avec les Tigers. Donc, autrement dit, là, ce scandale de tricherie a coûté 5 millions de dollars, une coupe de choix au repêchage, d'attitude. Je veux dire, s'il y avait une saison où tu te dis, avoir une suspension d'un an, ben c'était bien 2020. Là, il ne s'est pas passé grand-chose. On a joué 37% de la saison. Moi, je trouve que le baseball, Alain, dans tout ce dossier-là, puis on pourrait remonter au dossier des stéroïdes, mais on a manqué de rigueur. On a manqué vraiment notre coup pour faire en sorte que le baseball peut être plus propre. J'aurais aimé ça qu'on soit beaucoup plus sévère. Oui, tu as le droit à une deuxième chance, absolument. Mais j'aurais aimé ça qu'on soit beaucoup plus sévère parce que là, c'est un petit peu la risée. Là. Puis là, on va en parler tantôt, là, mais là, c'est le tour du temple de la renommée qui s'en vient. Là. Les fameux votes qui sont sortis, les joueurs, enfin pas les votes, mais les joueurs qui sont sortis qui vont être admissibles cette année. Puis là, c'est le débat encore de Bonds, puis de Clemens puis, et compagnie. Mais Colin, ce que les Astros ont fait, là, c'est scandaleux. Puis à la limite, il y a des gens qui comparent ça même à Pete Rose. Bon, peu importe, ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait quoi avec tout ça? Là? C'est comme, OK, ben ils ont servi leur suspension, puis c'est terminé, puis on continue, puis c'est comme si rien s'est passé. Fait que je trouve que le baseball a été mou dans leur prise de décision là-dessus au cours des dernières années. Puis là, on est tous pris avec, ben est-ce qu'on met Bonds puis Clemens au temple de la renommée? Mais est-ce que Rose est encore suspendu? Mais pourtant, lorsque un frappeur sait quel tir qui s'en vient, selon moi, ça, c'est encore plus un avantage que d'avoir des gros muscles, mais d'espérer de frapper une balle par-dessus la clôture. Alors, tu comprends? Je trouve que là, on a mélangé beaucoup de patentes. Puis, je suis pas convaincu, moi, que c'est une bonne chose que Cora soit de retour. Puis, pas parce qu'il n'est pas bon. Moi, j'adore Alex Cora. Rappelle-toi qu'il l'avait embauché. Moi, j'ai trouvé que c'était une embauche. Ça avait été très intelligent par la part des Red Sox. C'est une tête de baseball. Par contre, ce qu'il a fait, ben, puis c'était d'ailleurs, c'était lui qui était la tête de tout ce scandale-là. Je ne sais pas si c'est bon pour les Red Sox. Je ne sais pas si c'est bon pour les Red Sox d'avoir encore cette attention-là l'année prochaine, parce que ça va refaire surface, évidemment. Donc, je suis déchiré, moi, de voir ça. Là, je parle en général pour le baseball. Je parle pour le bien du baseball. Je trouve qu'on est encore dans des zones plates, là, tu sais, des zones de l'époque des stéroïdes. Est-ce que c'est un vrai record de circuit, Barry Bonds? Est-ce que c'est une vraie série mondiale, celle des Astros? Puis personne n'a vraiment été puni dans tout ça, au point où on sait qu'il y a perdu. T'sais, Pete Rose, là, ça a été très sévère, mais à ce que je sache, il n'y a pas grand monde par la suite qui ont parié sur des matchs de baseball parce que la suspension a tellement été sévère. Alors, tu sais, je ne vais pas mettre tout ça dans le même panier. Je vais juste dire que je pense que le baseball devrait trouver un moyen de reprendre un petit peu plus, en fait, d'avoir un peu plus de rigueur dans ce genre de décision-là pour qu'on ait un sport qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressant à ce niveau-là, de toujours avoir chaque année et encore des doutes, puis des doutes, puis des doutes.
Il y a deux choses que je vais dire à ce propos, Marc, et on va parler de ça tout après, du temps de la renommée, puisqu'on est dans ce bateau-là, si on veut. On a beau parler du fait que le football est devenu très populaire, le baseball a toujours été mis sur un piédestal et les standards qu'on demande au baseball sont très différents de tous les autres sports aux États-Unis, Marc. Ça demeure encore et la place que le baseball occupe est encore presque sacrée là, dans le cœur des Américains, qui est le sport national. Et la deuxième chose, c'est qu'on a affaire aussi avec la plus puissante association des joueurs et le plus puissant syndicat probablement aux États-Unis. Donc, ces deux aspects qui font en sorte que le baseball, je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu agir autrement, je dis juste que ces deux aspects qui font en sorte que le baseball paraît peut-être un peu plus mal qu'il devrait dans ces situations-là. Je veux parler du temple de la renommée, Marc. Les candidats ont été soumis. Moi, ce que j'aime pas, parce que les noms de Bonds reviennent. Clemens est là encore une fois. On fait quoi avec ces noms-là? Moi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie. Et quand je dis d'hypocrisie, c'est que là, on donne la responsabilité aux votants de déterminer s'ils devraient y être ou non, alors que les critères devraient être établis par ceux qui les admettent, ces joueurs. Ce n'est pas aux journalistes, je pense, de déterminer si oui ou non. Ça devrait être fait avant. Est-ce que, oui ou non, on les admet? Et quand je parle d'hypocrisie, dans un deuxième ordre, Marc, on ne se comptera pas d'histoire. Il y a des joueurs d'OP qui ont déjà été votés à l'intérieur du temple de la renommée. Il y a des noms que je pourrais te nommer, là, puis bon, qui sont déjà là, qui ont fait partie de cette période-là.
Ah ouais.
À cet égard-là, moi, je me dis, établissons les critères de façon nette et précise. Et à partir de ce moment-là, ben écoutez, on pourrait être d'accord ou non, mais au moins on saura à quoi s'en tenir. Là, j'ai l'impression qu'on s'en va n'importe où dans tous les sens et qu'on donne la responsabilité aux votants qu'il y en a qui établissent leurs propres règles au moment de voter. Moi, c'est là-dessus, Marc, que je me dis, on devrait faire quelque chose et non avoir 56 critères. Là, bon, je dis 56. Dans le fond, il y a quoi? Il y a quelques centaines de chroniqueurs là, de baseball d'Amérique qui votent là, pour le temple de renommée. Il s'agit d'être membre depuis 10 ans. Et à chaque année, c'est à peu près 350-400 qui votent. Mais il y a 400 critères différents pour établir qui s'en va au temple de renommée. C'est ça qui n'a pas de bon sens.
Bien, et tu as raison, Alain. Par contre, le critère, ou en fait, les critères ne sont pas toujours faciles à énumérer. Parce que, par exemple, dans l'ère stéroïde, tu viens de le dire, il y en a qui se sont fait prendre. Il y en a qui en ont pris, qui ne se sont pas fait prendre. Alors, donc, le critère, est-ce que le critère, c'est de dire, bien, si tu t'es fait prendre, tu ne peux pas être au temple de la renommée, mais sachant fort bien qu'il y en a qui en ont pris, mais qui ne se sont pas fait prendre. Tu sais, fait que t'es comme pris avec ça. Même si c'est un critère très précis, je ne suis pas certain que. Mais tu as raison là, de mentionner qu'il faudra avoir quelque chose d'un petit peu plus, peut-être, comment je dirais, là, de façon bon, plus précise, en tout cas, de se retrouver avec des critères. Mais ça reste que. Tu sais, Bud Selig est au temps de la renommée. Bud Selig était le commissaire durant l'ère stéroïde. Alors, s'il y en a un qui a fermé les yeux à la course Maguire-Sosa pour que le baseball reprenne vie, bien Bud Selig.
Oui.
Mais Bud Selig, il est au temps de la renommée. Donc, lui qui dirigeait le baseball, c'est correct qu'il soit au temps de la renommée, mais que pendant ce temps-là, les Maguire-Sosa qui... Puis tu sais, je ne défends pas Maguire-Sosa tant que ça, Alain, mais c'était pas illégal dans ce temps-là. Ça n'était pas illégal, tu sais, c'est ce qu'il prenait au départ. Donc, il y a trop de tu sais, il y a trop de différences. Tu sais, aujourd'hui, bon, Robinson Cano s'est fait prendre. Il y a des règles établies. Si tu te fais prendre, deuxième fois, suspension. Moi, je pense que si Robinson Cano avait la possibilité d'aller au temple de la renommée, la nouvelle d'aujourd'hui, on vient de fermer la porte, selon moi. Parce que là, il y a des règles établies, puis il est suspendu. Bon. Mais l'époque des stéroïdes, je trouve ça trop vague. Je trouve ça beaucoup trop vague. Puis écoute, j'ai joué là à cette époque-là, puis il y a peut-être des joueurs qui ont passé devant moi, puis ça peut peut-être empêcher d'avoir une carrière, peut-être, juste, puis oui, je pourrais être fâché à ça. On ne saura jamais, mais ça reste que je sais que pour frapper une balle, bien Alain, ça ne prend pas juste des muscles. Ça va-tu aider un peu? Probablement. Est-ce que ça va empêcher, est-ce que ça fait en sorte que Barry Bonds est un moins bon joueur? Ou un bien, bien meilleur joueur. T'sais, peut-être, mais il était déjà très bon. Est-ce que le Éric Gagné, là, c'était tout un lanceur. Bon, est-ce que c'est ce qu'il a pris qui a fait qu'Éric Gagné lançait des changements de vitesse qui disparaissaient dans la zone des prises? Non. T'sais, tu comprends? Moi, là, j'ai toujours... J'aime pas les gens qui trichent. Vous avez mon commentaire sur les Astros de Houston. Okay? J'aime pas ça. Puis, si tu prends des substances pour être plus fort, ben oui, on n'aime pas ça parce que. Mais au baseball, c'est pas comme, par exemple, un haltérophile qui prend vraiment pour être fort parce qu'il faut qu'il lève la barre, ou, je sais pas, un cycliste qui prend quelque chose pour avoir plus d'énergie. Les gars, là, il faut qu'ils fassent, ils posent le geste. J'excuse pas, là, je veux juste dire que c'est pas un automatisme. Combien de joueurs, Alain, dans le baseball professionnel majeur et mineur, qui en ont pris des stéroïdes, qui ont détruit leur corps, mais qui n'ont jamais atteint le baseball majeur, qui n'ont jamais fait une bonne carrière. C'est pas une pilule miracle ou une injection miracle qui fait que soudainement, tu deviens un joueur étoile pendant 25 ans. Donc, tout ça pour dire que malgré tout ce que ça a fait, moi, je mettrai Clemens au temple de la renommée. Je mettrai Barry Bonds au temple de la renommée. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Vous aurez l'opinion que vous aurez de ces gars-là. Mais ça reste qu'à un moment donné, il va falloir soit tourner la page complètement. Ouais. Mais moi, je pense que si on ne veut pas être hypocrite, il faut les admettre. Parce qu'il y en a qui ont été admis puis qui en ont pris. Puis je ne vous dis pas que ceux qui ont été. Tu sais, comme là, Alex Rodriguez officiellement a été pris, a même été suspendu par le baseball majeur. Bon, est-ce que ça, c'est un des critères? Alain, qui fait en sorte que, tu parlais des fameux critères tout à l'heure. Bon, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir passer outre ça. Et ce qui me tanne, c'est qu'on a vécu encore une fois cette année, ou l'année dernière, avec le scandale des Astros, une autre situation où le baseball n'a peut-être pas pris les choses en main, n'a peut-être pas mis ses culottes comme il se doit. Fait que ça devient évidemment un sujet qui est toujours... toujours très chaud lorsqu'on arrive à ce moment-ci de l'année. Mais à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Puis, tu sais, je veux dire, pourquoi mettre un record avec un astérix lorsque on ne sait pas vraiment puis comment ça allait aider? Tu sais, à un moment donné, on va toujours se poser la question. Mais je termine en disant ceci. Par contre, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il est temps à un moment donné que Pete Rose ait sa chance, là, cette fameuse deuxième chance? Bien, ça sera un autre débat, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être ouais. cohérent dans nos décisions.
Oui, malheureusement pour Rose, je pense qu'au fil du temps, il ne s'est pas beaucoup aidé. Je pense que.
C'est ça. Ouais.
Je pense que, honnêtement, s'il avait été moindrement humble depuis ces incidents-là, il serait peut-être déjà au temple de la renommée. Marc, je ne sais pas si tu as regardé la liste des joueurs. Je veux juste qu'on parle rapidement des nouveaux candidats. Moi, il y en a deux qui sur lesquels je me dis, il me semble que ces deux gars-là devraient rentrer. Il y en a un dont on a déjà discuté, c'est le troisième but Scott Rowland, qui a été un très bon joueur de troisième but, peut-être un des meilleurs joueurs de troisième but défensif. Tu l'as vu jouer, je pense qu'il était là au moment des expos, était dans le baseball majeur, donc tu as été en mesure de le voir avec les Phillies, entre autres, dans la même section. Et l'autre, moi, Marc, c'est peut-être un des meilleurs frappeurs droitiers, en tout cas un des bâtons les plus rapides du côté droit que j'ai vu depuis que je suis de baseball, c'est Gary Sheffield. Ces deux gars-là, Marc, je les regarde dans l'alignement. Dans ceux qui sont admissibles, là, je pense que je mettrais un X à côté de ces deux joueurs-là. Là. Je regarde la liste, là, c'est les deux premiers qui me venaient en tête. Là.
OK, j'étais convaincu que tu allais me parler de Todd Helton, mais il a joué pour les Rockies, donc je vois que tu...
J'ai regardé Todd Helton. Il a un dossier intéressant. Il n'est pas dans la catégorie de Charlie Blackmon, c'est-à-dire qu'il a réussi à produire autant à domicile qu'à l'étranger. C'est seulement sa position qui a fait en sorte qu'il est au premier but. Éventuellement, oui, je vais y penser un peu plus, mais pour l'instant, je te dirais, dans ceux que j'ai vus, je me suis contenté de deux joueurs, là. Oui, c'est Sheffield et Rowland me semblent en haut des autres. Rowland, particulièrement en raison de sa défense et de son attaque.
Ben, écoute, Alain, c'est deux excellents choix. Je vais te dire, Gary Sheffield, probablement un des frappeurs les plus dangereux de son ère. Écoute, ce gars-là était non seulement spectaculaire, mais j'aurais aimé qu'on ait les statistiques qu'on a aujourd'hui, là, la façon, la vélocité avec laquelle la balle quitte le bâton, tu sais, ce genre de statistiques-là.
Ouais, ouais, ouais.
Sheffield, ça aurait explosé à chaque fois. C'était vraiment un frappeur redoutable à tout point de vue. Il y a eu malheureusement beaucoup de blessures aussi dans sa carrière, mais effectivement, c'est un joueur qu'il faudrait considérer beaucoup. Dans le cas de Scott Rowland, il fait penser beaucoup à Larry Walker. Dans le sens que Alain, c'est pas un gars très populaire. Tu sais, c'est pas, comment je dis, tu sais, c'est pas le gars là. Tu sais, on va penser au meilleur troisième but du baseball. Tu vas encore penser à Mike Schmidt. Tu vas encore penser à George Brett. Tu vois, tu sais, à certaines époques. Mais Scott Rowland ne viendra peut-être pas, tu sais, parmi les 5-6 premiers noms que tu vas avoir. Mais pourtant, si on parle de stabilité au troisième, tu sais, tout cet aspect-là, évidemment, tu vas parler de sa contribution en attaque. C'est un choix logique. C'est un choix logique. Est-ce que ça fait combien d'années là, que Scott Rowland est...
Ça fait quelques années déjà.
Ça fait déjà quelques années. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la comparaison avec Walker, je la trouve intéressante. Je ne parle pas de joueur, je parle simplement de la façon dont... Tu sais, Walker a été un excellent joueur. Partout où il est passé, avec les Rockies, évidemment, les Expos, fini avec les Cards et tout ça, mais... C'était pas toujours le joueur sur lequel on parlait, le voltigeur, mais c'était un peu le même cas pour Scott Rowland. Deux bons candidats, deux bons joueurs de balle, effectivement, qu'il faut retenir pour cette année.
Bon, on va finir, Marc, en analysant peut-être les choix des chroniqueurs là, sur les différents honneurs annuels. On va commencer par le joueur le plus utile à son équipe, qui est le titre le plus important. Tu l'avais mentionné, Freddie Freeman, c'est lui qui a facilement emporté dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un très bon choix. Une partie de ses succès, je pense, il est droit à Marcel Ozuna. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bien protégé que cette année. José Abreu du côté des White Sox de Chicago, qui a servi ni plus ni moins de modèle, je pense, aux nombreux jeunes Cubains et jeunes Latinos là, qui évoluent au sein de cette équipe-là. Abreu avait décidé de revenir avec les White Sox de Chicago, lui qui aurait pu partir comme joueur autonome, était confortable là-bas. Je pense que c'est deux très bons choix. Les deux qui ont été d'ailleurs choisis aisément là, dans leur ligue respective.
Oui, deux choix logiques, deux choix tout à fait qu'on avait vu venir, Alain, dans ce cas-ci. Freeman, oui, ça aide lorsque tu as un Ozuna derrière, mais ça reste sa constance tout au long de la saison. Il a été très, très bon. Les points produits étaient là. Dans le cas d'Abreu, il a mené le baseball avec les points produits. Évidemment, les points produits, bon, ça prend des gars sur les buts avant, mais ça reste que il a beaucoup aidé les jeunes White Sox aussi à se développer. C'est parfois, ça fait partie d'un critère, c'est pas toujours facile à évaluer. Mais deux choix tout à fait logiques. Puis deux excellents joueurs qui enfin méritent cet honneur-là.
Oui. Cy Young, écoute, dans l'américaine, c'était clair que ça s'en allait à Shane Bieber. Là. Dans la nationale, il y avait peut-être Yu Darvish, mais c'est allé à Trevor Bauer. Là aussi, Marc, je pense que c'était des choix logiques là, pour deux gars qui étaient en fait deux anciens coéquipiers des Indiens de Cleveland.
Bon, dans le cas de Bieber, là, c'était, comme on dit, un no-brainer, là. Il était tout fin seul, selon moi, dans cette course-là. Son nombre de retraits sur des prises. Écoute, il a dominé la Ligue américaine, c'est aussi simple que ça. C'est malheureux que ça ne s'est pas poursuivi en série dans le cas de Shane Bieber. Et Bauer, ben écoute, il a fait une belle campagne, hein, il faut le dire. Un gars très présent dans les réseaux sociaux, mais il méritait amplement, Alain. Et je pense que sa constance. Darvish a connu un très, très bon début de saison. Quelques petits passages à vide, je dis petits, des fois c'était un ou deux départs, mais pas plus que ça. Très bonne saison pour Darvish, mais effectivement, il n'y avait pas de place pour lui. Bauer était tout simplement le meilleur lanceur de la Ligue.
Je
Et
pense que.
en passant, Alain, un chapeau encore à Jacob deGrom, qui était quand même considéré à nouveau et il allait pour une troisième année consécutive et qui avait des statistiques qui faisaient en sorte qu'il méritait d'être parmi les trois finalistes. Alors, c'est tout un exploit d'être là pour une. D'être parmi les finalistes, bien évidemment, il avait gagné au cours des 2 dernières années, mais DeGrom est encore un des grands lanceurs de la Ligue nationale.
Bon, le vote le plus intéressant, Marc, et je suis convaincu que tu vas être du même avis, c'était recrue de l'année dans la Ligue américaine. On savait que c'était pour se décider entre deux joueurs très spectaculaires. J'ai l'impression qu'on va en reparler de ces deux gars-là au cours des prochaines années, Louis Robert et Carl Lewis. Écoute, je te dis ça, je me souviens même plus qui était troisième, là, mais ça n'a aucune importance. On se doutait que c'était ces deux gars-là. C'est Carl Lewis qui l'a emporté finalement. Louis Robert qui a peut-être manqué de constance à l'attaque, ce qui lui a coûté le titre de recrue de l'année. Ces deux athlètes hors pair dans la nationale, écoute, Devin Williams a eu une saison historiquement bonne là, avec les Brewers de Milwaukee. On savait que ça s'en allait de ce côté-là. Mais Robert et Lewis nous ont donné du très bon baseball et spectaculaire en plus.
Oui, tu as raison de mentionner que ces deux gars qu'on va se rappeler, évidemment, qu'on va voir grandir dans le baseball parce qu'ils vont être là pour longtemps. Lewis, évidemment, un petit peu plus de puissance. Son MPP était meilleur, moins de retraits sur des prises. À un moment donné, tout ça fait en sorte que ça a compté dans le cas de Lewis. Mais si on avait dit que c'était Louis Robert, je pense que personne qui aurait dit, ben là, il y en a un, tu sais, qui s'est fait voler. Là. Je veux dire, c'était un ou l'autre. Ça a été très, très serré. Dans la nationale, par contre, ça a été un petit peu plus serré. Évidemment, Williams a été sur une autre planète, mais Cronenworth, avec les Padres de San Diego, a connu une très, très bonne saison. Et également, la jeune recrue des Phillies de Philadelphie, au troisième coussin, qui a été excellent. Donc, c'était, tu sais, ça aurait pu être plus serré. Et moi, j'ai un peu de misère, des fois, Alain. Tu sais, c'est lorsqu'on met trois joueurs, évidemment, là, pour le titre, ou trois finalistes, lorsque tu es des releveurs puis ou des lanceurs puis des joueurs d'opposition, je trouve ça bien difficile parfois. Évidemment, dans ce cas-ci, Williams a tellement été dominant. Écoute, on l'a juste pas touché de l'année. Ça devenait, je pense, une logique de le mettre comme recrue de l'année. Mais ça reste que parfois, j'aime ça, moi, séparer les lanceurs et les joueurs de position. Je trouve ça des fois difficile lorsque les deux se retrouvent dans la même catégorie et d'en choisir un vis-à-vis l'autre. Je trouve que parfois, c'est un peu plus déchirant.
Bon, Marc, je ne sais pas quelle importance tu donnes au titre de gérant de l'année. Bon, tu me vois venir, là, on connaît l'évolution du poste de gérant au fil des années. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'administration de l'année, dans le fond, qui est derrière ces titres de gérant de l'année? Don Mattingly pour les Marlins, puis les Marlins qui ont eu à faire face à de nombreux défis au cours de la saison. L'une des équipes avec les Cards de Saint-Louis qui ont eu à faire face à l'éclosion majeure au sein de l'équipe. On a réussi quand même à se lancer pour les séries et peut-être aussi voir la lumière au bout du tunnel, le fameux plan Jeter dont on parle depuis quelques années. Donc, Mattingly qui hérite du titre, alors que dans la Ligue américaine, c'est bon, Kevin Cash et les Rays de Tampa. Juste faire une petite parenthèse, là, un retour sur la série mondiale de Kevin Cash qui a été. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah bon, vous voyez bien, les stats avancées, ça n'a pas fonctionné, des Dodgers. Les Dodgers, c'est l'équipe qui investit le plus dans les stats avancées dans le baseball majeur. C'est juste ça que je veux ajouter et que je veux préciser dans ce cas-là. Donc, ma question, Marc, et félicitations aux deux, et je sais que tu as beaucoup de respect pour Kevin Cash et le travail qu'il a fait, mais la nature de l'emploi de gérant, est-ce que ça fait en sorte que le titre, bon, de gérant de l'année ne revient pas, dans le fond, à l'ensemble de l'organisation?
Non, oui et non. Oui, parce que c'est un travail d'organisation. Non, parce que, tu sais, Alain, Il faut que quelqu'un passe le message. Il faut que quelqu'un soit là, qui communique avec les joueurs. Puis je dirais que c'est le plus grand rôle d'un gérant aujourd'hui, c'est d'embarquer dans galère, c'est d'embarquer dans le plan, c'est d'embarquer dans le bateau ensemble qu'on rame dans le même sens. Ça, pas tous les gérants qui sont capables de faire ça. Kevin Cash le fait très, très bien parce que tout le monde, tous les joueurs qui arrivent chez les Rays, et puis il y en a des changements de joueurs chez les Rays, regardez, depuis juste 5 ans, là, on transforme l'équipe, là, aux 2 ans, c'est pas mêlant. Mais chaque fois que tu portes l'uniforme des Rays, tu embarques dans le plan. Et écoute, tu regardes le succès des Rays. Donc, il y a quelqu'un qui doit le vendre, ce plan-là, puis qui doit faire en sorte que le joueur se sente bien. Fait que le rôle est encore très important, puis moi, je pense que le gérant mérite d'avoir le gérant de l'année, là, dans ce cas-ci, parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est sur la ligne de front, puis que, tu sais, oui, il y a des décisions qui sont prises avant le match, mais il faut quand même que tu sois là. Puis dans le cas de Malignan, ça a été la même chose. Il a fallu avoir beaucoup de leadership pour traverser cette saison qui a été, pas mal de défis du côté des Marlins. Fait que, il faut pas négliger ce rôle-là, Alain. C'est sûr que le gérant, là, c'est facile, là, tu t'écris ton line-up, hein, t'écris ta formation, tu mets ça, puis OK, c'est pas juste ça. Il y a bien d'autres aspects, puis je pense que ça fait du bien que les gérants qu'on puisse voir que ces gérants-là font en sorte, évidemment, que le plan de l'organisation, ben, fonctionne et qu'on fasse en sorte que ça se déroule sur le terrain de bonne façon. Donc, je ne suis pas prêt à dire que c'est un titre qui est moins prestigieux maintenant, compte tenu que c'est un travail d'équipe à davantage.
Oui, Mattingly, d'ailleurs, qui mentionnait à un certain moment qu'il ne connaissait pas la moitié des joueurs qu'il a dirigés. D'ailleurs, il a eu un petit temps de vitesse à un moment donné au sein de son équipe. Et Marc, je vais terminer avec, tu sais, quelquefois, il y a des émissions où on accorde des fleurs et on lance le pot. Là. Les fleurs, je vais les lancer à Kim Inge lors de notre émission. Et le pot, ben écoute, je pense qu'on va le lancer tous les deux à Robinson Cano pour, je te dirais, l'ensemble de son œuvre. J'ai jamais été un gros fan de Robinson Cano, même si je reconnais son grand talent. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui va pleurer sur son sort à la suite de sa suspension pour l'année complète 2021.
Écoute, un des beaux élans du baseball, frappeur gaucher, Alain, mais comme je l'ai mentionné tantôt, lui, s'il pensait aller au temple de la renommée, parce qu'il aurait été un sérieux candidat, selon moi, là.
Ah oui.
Là, on vient de fermer la porte, puis cette nouvelle rafraîchissante de l'embauche de Kim Ng est tout à fait exceptionnelle pour le baseball, c'est très rafraîchissant, j'espère qu'il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années.
Merci beaucoup, Marc. Ça complète compte complet cette édition. Il y avait pas mal de matériel et c'est pas encore fini parce que le marché des joueurs autonomes vient tout juste de s'ouvrir. Il y a des joueurs qui sont admissibles à l'arbitrage et faut pas oublier que en 2021, c'est la dernière année de la présente convention collective, donc il pourra y avoir des choses qui se passent au cours des prochaines semaines. En tout cas, on l'espère, Marc, parce que si ça traîne, c'est là que ça risque de se compliquer. Merci beaucoup, Marc. On se revoit bientôt.
Salut.
Prenez soin de vous tout le monde, à la prochaine.